Le Grand Matin Sud Radio, 7h-10h, Benjamin Glaise.
Et 9h34.
La vérité en face.
Sur Sud Radio, je suis très pressé, bah oui, puisque pour le coup, c'est un ouvrage très intéressant qu'on vous propose, que vous pouvez commenter d'ailleurs si vous avez des questions à poser à notre invité, 0826-300-300 sur Sud Radio. En tout cas, elle a été de loin la conseillère la plus en vue lors de cette présidentielle, à la fois bras droit et compagne d'Éric Zemmour, c'est Sarah Knafo, la femme de l'ombre finalement passée à la lumière devant les projecteurs, très clairement, en une photo, un cliché, notamment publié à la une de Paris Match. Cette femme, on va en parler avec Ava Jamshidi, qui est avec nous ce matin sur Sud Radio. Bonjour et bienvenue.
Bonjour.
Avec cet ouvrage que vous avez coécrit avec François-Xavier Ménage, grand reporter pour TF1. Vous-même, vous êtes grand reporter pour le magazine Elle. Cet ouvrage intrigante, Sarah Knafo, et ce sous-titre, l'histoire secrète d'un candidat sous influence. C'est dire le rôle que vous accordez finalement à Sarah Knafo lors de cette campagne présidentielle et peut-être cette décision même pour Éric Zemmour de se lancer dans cette campagne.
C'est vrai qu'elle est essentielle à cette aventure électorale. D'ailleurs, Éric Zemmour l'a dit lui-même, sans Sarah Knafo, il n'y aurait pas eu de campagne. Et c'est vrai que ça a été vraiment quelque chose qui nous a beaucoup interpellés, parce qu'il y a très peu d'hommes politiques et de femmes politiques qui parlent de la sorte d'un conseiller stratégique. Et puis surtout, dans la chorégraphie de ce tandem, en fait, on voit qu'elle est omniprésente, qu'elle est là en permanence. Ils partagent leur bureau au QG de Reconquête. Ça, vraiment, c'est pour les avoir tous interviewés, les candidats à la présidentielle, je n'avais jamais vu ça. On n'a jamais vu ça avec François-Xavier Ménage, le co-auteur de cette enquête. Et c'est vrai qu'il n'y a pas eu d'autres personnalités de l'ombre, vous l'avez rappelé, qui entretient un rapport assez ambigu d'ailleurs avec l'ombre et la lumière, qui soit aussi présente auprès de son candidat.
D'ailleurs, quand vous êtes en interview avec lui, parfois c'est même elle qui répond au final, qui vient en aide à lui quand il a un peu plus de mal à répondre à vos questions.
Oui, ça c'est vraiment quelque chose de très marquant. Mmh. Enfin, c'est inédit en fait pour un conseiller d'interrompre l'entretien de son patron pour prendre la parole et pour parler de son expérience personnelle, pour étayer un argument, pour lui souffler des réponses. Ça, on ne l'avait jamais vu. Et c'est aussi ce qui nous a donné envie de nous pencher sur le sort de cette jeune femme qui, finalement, n'était connue des médias et de l'opinion publique française qu'à l'aune de ce qui avait pu en sortir dans la presse People au tout début. Ouais. Pour qui, en gros, les Français la connaissaient surtout essentiellement comme étant la compagne d'Éric Zemmour. Et on s'est rendu compte que c'était beaucoup, beaucoup plus que cela. Les initiés qui suivaient le candidat le savaient évidemment, mais pas le grand public. Et on s'est dit que c'était vraiment intéressant de mener une enquête pour raconter qui elle est, d'où elle vient. Et puis, dans cette aventure électorale qui est menée, il y a quelque chose de particulièrement intéressant. Éric Zemmour, c'est un peu comme un spécialiste de la politique qui l'a chroniqué, qui a travaillé sur cette matière pendant des années, et puis qui décide un jour de se lancer lui-même. Un peu comme si un commentateur ou un journaliste sportif décidait de subitement d'entamer une carrière à la Zidane ou de devenir un entraîneur. Et la personne qui lui permet d'opérer cette bascule, alors certes ratée, puisqu'il a échoué au portrait
du second tour, c'est important
de le rappeler, il ne fait que 7%, mais enfin quand même, il atteint ces 7%, il fait mieux que les Républicains, que la candidate des Républicains, il fait mieux que la candidate du Parti Socialiste, alors qu'il n'avait pas d'expérience politique en propre par le passé, et celle qui lui permet d'y arriver, d'organiser cette campagne, c'est Sarah Knafo.
En créant un engouement aussi au début de cette campagne présidentielle, tout simplement incroyable. On va revenir bien sûr sur ce duo, puisque c'est un duo politique, très clairement, c'est ce que vous racontez. Mais revenons déjà sur elle, son parcours à Sarah Knafo. On apprend beaucoup de choses dans cet ouvrage. Femme, on va dire, radicale, très ambitieuse, déjà très jeune.
Très ambitieuse, très très jeune. C'est un de ses enseignants du lycée israélite où elle a étudié à Pavillon-sous-Bois, puisque Sarah Knafo vient de Seine-Saint-Denis, dans une espèce de petite oasis prospère au milieu de la Seine-Saint-Denis. Et là, c'est un prof en fait qui lui donne le goût de ses études, même si elle ne sait pas très très bien où elle va. Et elle entame un parcours d'excellence, je pense qu'on peut le qualifier de cette manière, alors que rien ne l'y prête. Elle n'est pas du tout dans une famille particulièrement politisée, elle n'est pas incitée à le faire. Et à partir de ses études, elle arrive à Sciences Po, et là, elle commence à se constituer un réseau vraiment impressionnant pour une jeune femme qui n'est pas coutumière de ce petit monde politico-médiatique, qui n'a pas de liens familiaux comme ça qui pourraient l'aider à se constituer ces réseaux. Et ça va ensuite être extrêmement utile pour l'avènement de cette campagne.
Malgré des échecs, elle a eu des échecs aussi dans sa jeunesse, mais à chaque fois, elle a su justement rebondir ou insister ou travailler encore plus, parce que c'est une grande travailleuse aussi. Vous l'avez dit, le terme important, c'est réseau, c'est aussi mentor, c'est ça aussi qui va l'aider finalement à gravir les échelons très très vite.
Oui, elle s'est vraiment entourée, elle a su s'entourer de mentors, de personnalités,
des noms très connus.
Des noms très connus, vous l'avez dit, Hubert Védrine, Henri Guénaud, Marie-France Garraud, qui l'invite à boire le thé le dimanche quand elle la rencontre. Alors, elle sait jouer de ces réseaux-là, et puis ses mentors sont emballés aussi par sa personnalité, parce que vous l'avez dit, elle travaille, c'est quelqu'un qui a une intelligence sociale assez rare, pour ces personnalités qui sont plutôt âgées, c'est très agréable d'aider un talent à éclore. Ils la sentent prometteuse et puis ils aiment bien toujours voir semer des graines et les voir éclore. Et ils se disent qu'elle pourrait avoir un destin, qu'elle pourrait avoir une carrière.
J'y suis pour quelque chose, quoi, là-dedans.
J'y suis pour quelque chose et j'ai envie de l'aider. Elle se met effectivement au service d'Henri Guénaud. En 2017, qui est sa première expérience politique, où elle fonde un mouvement des jeunes avec Guénaud qu'elle soutient, et qui est sa toute première expérience électorale. Donc quand Sarah Knafo arrive dans la campagne d'Éric Zemmour, eh bien, elle a déjà vécu l'expérience d'une campagne ratée. Elle sait déjà ce qu'est un échec. Elle sait aussi comment on fait pour rebondir et s'en sortir.
Elle a cette intelligence sociale, vous l'avez dit. Et d'ailleurs, c'est ce qu'elle a fait à Sciences Po Paris en utilisant une association, notamment, qui lui a permis d'avoir cette assise-là. Et pour prendre sa place, elle y va, quoi. Elle n'hésite pas.
Oui, elle n'hésite pas du tout.
C'est vraiment... Ça lui est reproché parfois.
Oui, alors du coup, elle agace. Parce que c'est quelqu'un qui est vraiment très culotté et qui n'hésite pas à jouer des coudes pour jouer les premiers rôles. Et lors de sa participation à cette association, donc critique de la raison européenne, c'est vrai qu'elle se crée quelques inimitiés, parce que quand elle choisit des personnalités pour venir intervenir lors de ces conférences débats qui sont organisées à Sciences Po, avec les personnalités dont on a évoqué les noms, Hubert Védrine, Jean-Pierre Chevènement, Marie-France Garraud, ce genre de personnalités politiques souverainistes, déjà, puisque c'est déjà dans cette
fibre-là
idéologique
bien présente,
qu'elle s'inscrit très clairement, eh bien, Sarah Knafo exige qu'elle puisse préparer en tête-à-tête les entretiens et les conférences avec les personnalités en question. Donc c'est des moments où elle sait aussi jouer de son intérêt pour pouvoir ensuite nouer une relation professionnelle, politique. Enfin, c'est le réseau dont on parlait tout à l'heure, dont elle ne sait pas encore précisément à quoi cela pourra bien lui servir, mais dont l'histoire a montré que ça s'est avéré plutôt utile.
Dans cette jeunesse, elle est encore jeune, elle a moins de 30 ans.
Aujourd'hui, elle a 29 ans.
29 ans, elle en avait 28 pendant la campagne présidentielle. C'est vrai que c'est assez surprenant. Mais à quel âge elle a rencontré finalement Éric Zemmour?
Elle l'a rencontré dans le cadre familial, dit-elle, à l'âge de 15 ans. Voilà ce qu'elle nous dit. Après, le reste, la manière dont se noue une histoire sentimentale entre eux, on ne s'est pas aventuré sur ce terrain parce que la loi nous l'interdit. On n'a pas le droit de raconter la vie privée des gens.
C'est un livre non autorisé, il faut le rappeler,
C'est un livre non autorisé, exactement. Mais par ailleurs, nous, on n'est pas journalistes.
Et puis, en termes d'éthique, en tout cas...
Oui, on n'est pas journalistes. People. Alors évidemment, dans cette enquête, on a dû se pencher sur la nature du lien qui existe entre eux. Et ce lien est aussi sentimental. Donc c'était très important de pouvoir l'interroger. Mais ce genre de détails, non, on a fait le choix de ne pas les mettre pour les raisons que je viens de vous indiquer.
Mais vous mettez en avant plein d'autres choses justement sur ce duo, sur cette histoire et notamment sur cette campagne présidentielle qu'ils ont vécue à deux, en duo, avec cette influence réciproque. Et on continue d'en parler justement, d'en parler de cet ouvrage, l'intrigante Sarah Knafo avec vous. Ava Jamshidi, bien sûr, dans un instant sur Sud Radio, 9h43. Vous nous appelez si vous voulez poser des questions à notre invité 0826-300-300. A tout de suite sur Sud Radio.
Le Grand Matin Sud Radio, 7h-10h, Benjamin Glaize. La vérité en face.
9h47 sur Sud Radio, La vérité en face avec Ava Jamshidi qui est toujours avec nous pour cet ouvrage, l'intrigante Sarah Knafo avec François-Xavier Ménage. Ménage qui est lui grand reporter pour TF1, vous êtes grand reporter pour le magazine Elle. On a parlé un petit peu donc, on va dire, de l'enfance, de la jeunesse de Sarah Knafo. Venons-en justement à cette campagne présidentielle, et notamment sur le moment de bascule, puisque vous parlez de cette ambiguïté pour Sarah Knafo, qui à la fois veut rester dans l'ombre, et puis en même temps aime bien le feu des projecteurs aussi de temps en temps. C'est vrai qu'on a du mal à savoir quelle est la part de vérité de ce côté-là.
Bah, elle a un rapport qui est très ambigu à la lumière. Les conseillers de l'ombre, comme leur nom l'indique, sont censés rester à l'abri des caméras. Or, c'est vrai que Sarah Knafo, elle n'hésite pas à se positionner au premier rang des meetings. Il est arrivé lors d'une réunion publique au Mont-Saint-Michel qu'elle porte une tenue extrêmement voyante, un ciré jaune avec des bottes où on ne voit qu'elle. Donc, on sent quand même qu'elle aimerait bien pouvoir exister, mais qu'elle n'est pas très claire sur ce point. Je pense que ça, c'est quelque chose que sans doute elle éclaircira avec le temps. Elle a eu énormément de propositions d'entretiens, d'interviews télévisées, mais on n'a jamais entendu le son de sa voix de manière publique. Là, on a pu la voir, nous, dans le cadre de ce travail, mais vraiment, je ne vais pas dire qu'elle était contrainte, mais parce qu'il fallait recouper certaines informations et en vérifier. Mais ce n'est pas quelqu'un qui a encore éclairci, je pense, cet aspect des choses.
Le moment de bascule aussi, où on l'a découvert au niveau du grand public, ça a été cette photo à la une de Paris Match, où ils étaient enlacés, Éric Zemmour, et puis elle, Sarah Knafo. Il y a eu aussi toutes les questions autour de sa grossesse, supposée, oui, vrai ou pas. En tout cas, ce sont des sujets qui ont beaucoup fait réagir, beaucoup fait parler également. Déjà, pour cette photo à la une de Paris Match, la question, c'était de savoir si c'était une photo volée ou pas, ou est-ce que c'était une manœuvre politicienne. Vous en parlez en tout cas dans votre ouvrage, vous apportez des éléments de réponse à ce sujet.
Oui, on s'est vraiment posé la question et on a remonté et recoupé nos informations auprès de tous les protagonistes de cette affaire. En fait, un grand paparazzi très réputé, Pascal Rostin, avait été envoyé pour faire un reportage pour suivre l'embryon de campagne qui était en train de se nouer là, alors qu'Éric Zemmour n'était pas candidat à la fin de l'été, et il y a un petit changement de programme, et donc il décide de se rendre à l'hôtel où réside Éric Zemmour pour voir un peu ce qui va se passer. Et là, il tombe sur eux en train de boire un café. Il se cache, il se met en plan, comme on dit dans le jargon. Il les voit ensuite descendre des escaliers, prendre un bain de mer, il les voit s'enlacer, et à ce moment-là, évidemment, c'est un paparazzi. Qu'est-ce qu'il fait? Il déclenche. Alors, Éric Zemmour et Sarah Knafo assurent et ont attaqué d'ailleurs Paris Match que aucun accord n'a été passé avec eux. C'est également ce que soutient Paris Match. Je pense pas qu'il s'agisse d'une paparazzade organisée, mais ce qui est sûr, c'est que ce moment a un double impact, je dirais, pour Sarah Knafo. D'abord, d'un point de vue professionnel, c'est un moment qui est quand même un peu compliqué, parce que même si tout le monde sait quel est son rôle auprès de lui, et que l'enquête qui a été réalisée par notre consoeur Émilie Lanaise pour raconter un peu quel est le rôle essentiel de cette femme aux côtés du candidat, eh bien, c'est pas exactement la même chose de se voir de la sorte ramenée entre guillemets au rôle de compagne. Et dans le même temps, d'un point de vue assez paradoxal, à partir de ce moment-là, en fait, Sarah Knafo, elle a plus besoin de cacher la relation qu'elle
nouait
avec Éric Zemmour, puisque tout le monde est au courant. C'est pas dit clairement dans l'article, mais les photos sont tellement évocatrices que la question ne se pose presque pas. Et c'est un moment qui est déterminant dans sa vie, puisque cette relation qui était jusqu'à présent clandestine devient publique, et donc elle peut désormais la vivre au grand jour. Et à partir de ce moment-là, elle ne se cachera plus.
La question aussi que beaucoup de gens peuvent se poser par rapport à cette campagne présidentielle et ce duo du coup entre Éric Zemmour, candidat, et Sarah Knafo, plutôt justement dans l'ombre, mais en conseillère, proche conseillère et très importante auprès d'Éric Zemmour, c'est de savoir qui est la marionnette de qui un petit peu. Est-ce que la question se pose comme ça? Est-ce que Éric Zemmour n'est pas d'une certaine façon la marionnette d'une Sarah Knafo qui voit un peu plus loin même peut-être?
Je pense qu'il y a une réelle émulation entre les deux. Mmh. Et c'est vrai qu'on ne sait plus trop qui est le mentor de qui et qui est le maître et qui est l'élève dans cette relation. Ce qui est sûr, c'est que pendant toute la construction universitaire, les études de Sarah Knafo, Éric Zemmour a joué un rôle d'impulsion extrêmement important. Mais Sarah Knafo a réussi là où il a échoué. Éric Zemmour a raté à deux reprises le concours de l'ENA. Sarah Knafo, elle, y est parvenue. Et elle connaît mieux que lui, pour le coup, les rouages de l'exercice de l'État. Elle a appris lors de stages, notamment à la préfecture de Pau, en préfecture de Seine-Saint-Denis, lors d'une mission, comment fonctionne l'administration, ce que Éric Zemmour ne connaît pas du tout. Et c'est vrai que du fait de cette expérience, même si elle est très jeune pour Sarah Knafo, donc qui est sortie à la Cour des comptes à l'issue de l'ENA, eh bien, désormais, ils sont vraiment dans un mouvement d'émulation et de conseils mutuels qui fait que je comprends tout à fait que vous posiez cette question. Après, dans le déroulement de la campagne, on a pu voir à plusieurs reprises des moments où le rôle de Sarah Knafo est absolument décisif, où elle joue presque le rôle de souffleuse. François-Xavier Ménage les a accompagnés
à Londres,
en reportage, et il a observé une scène qui est assez sidérante de ce point de vue-là. Ils sont en train de préparer un discours, et puis Éric Zemmour a envie de se lancer dans quelque chose de très théorique, et Sarah Knafo l'arrête et lui dit non, en fait, il va falloir expliquer que quand on passe de la gare de Saint-Pancras à la gare de Gare du Nord, on comprend l'exaspération des gens. C'est elle qui l'incite à parler de grand remplacement. Mmh. Et c'est vrai qu'elle est extrêmement radicale et elle pousse le candidat à assumer cette carte-là dans le jeu politique et le jeu électoral qui se noue. Donc, ce qui est sûr, c'est qu'elle aussi, paradoxalement, malgré son très jeune âge, malgré sa petite expérience, a un rôle presque de mentor parfois à ses côtés.
Avec un modèle, d'une certaine façon, dans cette campagne éclair au début, et c'est surprenant, finalement, pour Sarah Knafo. Pour elle, Éric Zemmour réussira sa campagne, sera élu, si elle copie un petit peu la campagne d'Emmanuel Macron en 2017. Quoi.
Disons qu'elle s'en est fortement inspirée. Mmh. Il y a quelque chose qu'on a relevé pendant cette enquête qui nous a beaucoup interpellés. Mmh. C'est que Sarah Knafo, donc qui est une vraie bosseuse pour le coup, a décidé, même si elle défend des idées d'extrême droite nationaliste radicale,
rien à voir avec Emmanuel
Macron, elle décide de se pencher sur la manière dont cette campagne s'est organisée. Et alors, pour l'étudier, si j'ose dire, elle se met pas du tout à lire des livres d'analyse politique ou les récits de campagne. Elle s'attelle à la lecture d'un document extrêmement austère, les Macron Leaks. Vous savez, ce sont ces mails qui ont été piratés, qui ont fuité. Et donc, elle les lit.
Lors de la campagne d'Emmanuel Macron avec plein de militants, des cadres,
des journalistes, et elle épluche ces documents. Il y a des milliers de mails. Hein, c'est vraiment une lecture atroce, et elle décide de tout éplucher pour comprendre comment on organise une campagne, comprendre là où ça a péché, s'inspirer éventuellement de choses qui ont pu fonctionner dans cette campagne pour pouvoir les dupliquer et les mettre au bénéfice de son propre candidat qui défend, il faut le rappeler, des idées à mille lieues d'Emmanuel Macron.
Ava Djamchidi, deux dernières questions, c'est important quand même de les donner. Il y a un moment de bascule où Sarah Knafo, assez tôt finalement dans la campagne, n'y croit plus. Se dit là c'est fini pour Éric Zemmour.
Ouais, elle n'y croit plus au moment de l'intervention militaire en Ukraine, puisque compte tenu des positions extrêmement poutinophiles d'Éric Zemmour et de la structure de l'électorat qu'elle devine dans leur rang, elle se dit de toute façon, les CSP+, qui constituent le cœur, pense-t-elle, avec raison pour le coup de son électorat, vont privilégier la stabilité et vont se reporter sur Emmanuel Macron.
Figure d'État.
Pour assurer une forme de pérennité du pouvoir, et que quand bien même il pourrait nourrir des affinités et être d'accord avec les idées extrêmement dures et âpres que défend son candidat, finalement ils vont retourner vers Emmanuel Macron. Les faits lui ont plutôt donné raison. Il faut rappeler qu'à cette époque, juste avant l'intervention de Vladimir Poutine en Ukraine, Éric Zemmour est aux portes du second tour dans les sondages.
Et autour de 17% à ce moment-là. Et, oui.
Et s'ensuit une espèce de dégringolade infernale qui ne va cesser de baisser.
Dernier mot sur Sarah Gnafo, c'est passionnant, mais le temps passe vite. Sarah Gnafo, présidente, un jour ou pas, la question se pose. En tout cas, quand on lui fait la réflexion dans la rue, elle sourit.
Oui, elle sourit, elle dit pas non, elle n'exclut rien et elle aurait tort d'exclure quoi que ce soit compte tenu de son jeune âge. Hein, on l'a rappelé, elle a 29 ans. Et c'est vrai qu'on peut se poser cette question et c'est très rare de côtoyer dans une campagne des personnages dont les entourages ou dont vous présentez qu'ils pourraient avoir un destin. Et quand on a rencontré Sarah Gnafo à plusieurs reprises, c'est vrai qu'on a été très étonnés de voir des passants lui poser la question et lui dire mais et vous ?
De la reconnaître déjà.
De la reconnaître et de l'appeler, de l'encourager à se lancer sur cette voie. Donc il ne faudrait pas s'étonner si on la voyait un jour décider de se frotter au suffrage universel. Alors peut-être pas à la présidentielle pour une première, expérience, mais on verra.
À voir. 8 mois d'enquête en tout cas et puis un ouvrage passionnant qui se dévore littéralement.
Merci beaucoup.
Ça s'appelle l'intrigante Sarah Gnafo, l'histoire secrète d'un candidat sous influence. Ça va, Jamshidi. Merci d'avoir été avec nous sur Sud Radio, grand reporter pour le magazine Elle. Vous avez coécrit cet ouvrage avec François-Xavier Ménage de TF1. Merci à vous et très bonne journée. Allez, 9h58, le grand matin Sud Radio qui se termine. C'était le dernier de la semaine. Demain, c'est Laurence Garcia que vous retrouverez. Dans un instant, bien sûr, c'est Thierry Stenner qui sera là avec Antoine Ducaune. Ben oui, forcément, vous le suivrez avec ce documentaire Tell Me Iggy. Oui, ça va rocker avec Iggy Pop. Et puis lundi, Patrick Roger et Cécile Dominibus feront leur retour à l'antenne de Sud Radio. Très belle journée à tous.